On inspire. On expire. On respire. On souffle.
Carbone zéro.
Une mission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Malgré la fable des trois petits cochons, encore très répandue dans notre imaginaire collectif, la construction en bottes de paille s'affirme de plus en plus comme un mode constructif performant, écologique et très économique. Matériau naturel, renouvelable et recyclable, la botte en paille peut être produite localement quasiment partout. Elle est légère et dotée d'un bon pouvoir isolant. Elle stocke du CO2 et sa production ne demande que très peu d'énergie grise et peu de transport. Camille et Jean-Christophe nous emmènent à la découverte de cet habitat sain. Tu la connais la maison qui est dehors?
Oui.
Comment elle s'appelle la maison?
Une maisonnette.
C'est une maisonnette? Tu vas des fois dedans pour jouer?
Oui.
Elle est construite comment, cette maison?
Avec tout plein de trucs autour. Je sais pas, mais... Il est construit bien, comme ça, grosse. Mais papa, il l'a construit avec de la peinture, de l'argile, tout.
Est-ce que tu connais l'histoire de la maison en paille?
Non.
Alors, c'est l'histoire d'un papa qui un jour a voulu construire une maison en paille. Tu la connais?
Non.
Une maison, donc on va s'y intéresser dans cette émission, une maison construite en paille. Donc avec moi, Jean-Christophe et Camille, et une maison en paille. Voilà ce qu'on a avec nous pour faire une émission qui va être sympa. Peut-être commencer par Jean-Christophe. Comment t'es venu l'idée de faire une maison en paille?
Alors l'idée c'était du préconçu. On a eu l'occasion de faire un stage pour une maison qu'on avait décidé de se lancer à construire en Andalousie avec donc mon collègue Camille qui avait détecté l'information de la maison en paille sur internet. Et donc on a organisé sur cette maison, pour la construction de cette maison, on a organisé des stages et ça a été un peu la manière dont je me suis formé. En tout cas tout ce qui concerne la paille et les enduits terre. Le reste, je me suis fait un petit peu la main sur le vif, avec des petits stages en charpente ou bien pour améliorer les fondations et avoir des méthodes plus économiques ou bien plus solides selon ce que je voulais.
On dit aujourd'hui c'est le matériau le plus écologique, c'est de construire en bottes de paille. Parce que c'est des matériaux locaux, donc la terre, les enduits terre et les bottes de paille, c'est vraiment des matériaux qu'on trouve en général à moins de 20 km de là où on est, quoi, en France en tout cas. Des bottes de paille, on en trouve chez les paysans d'à côté. La terre, on les trouve sur les fondations de la maison, dans les fouilles, quoi. C'est de la terre minérale qu'il nous faut, donc c'est de la terre qu'on a en profondeur. C'est de la terre minérale, on appelle ça, c'est pas la terre qui est organique, c'est la terre qui est minérale, donc en dessous de 50 cm. Du niveau du sol. Toutes les terres sont valables. Après, il faut les tester et trouver la bonne proportion entre le sable et l'argile. Donc c'est environ 17% d'argile et 83% de sable.
Ouais, donc ça c'est l'enduit qui nous servira à recouvrir les murs, à couvrir les bottes de paille.
À protéger les bottes de paille. Ouais. Et ça va nous donner aussi tout le climat, donc en hygrométrie, tout ça. Ça va régler le climat intérieur de la maison et protéger de l'extérieur des ruissellements de pluie et tout ça, quoi. On dit aussi d'une maison en paille enduite de terre, c'est l'écologie et le bien-être, que c'est comme la troisième peau. Notre peau, c'est la première, la deuxième peau, c'est nos vêtements, et la troisième, c'est justement ce système, l'habitat, et avec ce système donc respirant et tout ça.
Hein, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est quand même dans une culture où on n'a pas l'habitude de voir des maisons en paille. Ici, c'est plutôt des maisons à colombage. Donc toi, Camille, comment t'es venue l'idée de t'intéresser à ce matériau de construction?
Ben alors moi, j'avais entendu parler de ça justement par un architecte il y a une quinzaine d'années. Il avait fait un exposé sur les maisons en paille qu'il avait construites. C'était une des premières qui a été construite dans les Vosges. Et donc ça m'est toujours un peu trotté dans la tête. Moi j'étais intéressé toujours par la construction en général. Et après ça a pris 12 ans pour vraiment que je passe à l'action et construire de cette manière. Après j'ai regardé sur internet effectivement et j'ai vu qu'il y avait une activité importante dans ce domaine. Et je me suis renseigné, je me suis formé et puis après on a fait ce projet en Espagne. Donc aussi un chantier un peu école. Et c'est comme ça que tout a commencé quoi.
Donc souvent les maisons, j'ai l'impression qu'elles sont construites en fonction du biotope, du climat, du pays. Donc est-ce que la paille s'adapte chez nous ?
Ah oui, tout à fait. Dans le monde entier, on en voit. Hein, jusqu'en Mongolie, aux États-Unis, au Canada. Après, dans les pays tropicaux, on n'a pas besoin d'une telle isolation. Donc là, dans les pays tropicaux, ça n'existe pas. On fait des maisons plus en terre-paille. Donc des murs en terre avec des fibres dedans. Mais là, on utilise la paille sèche donc comme isolant avec des enduits par-dessus. Donc ce qui fait vraiment la qualité isolante de la maison. Il y a les murs porteurs en bottes de paille et les murs donc avec une ossature bois comme cette maison. C'est une ossature dans laquelle on place les bottes de paille et on s'en sert comme isolant et aussi la statique pour fermer les murs de matériaux de parement quoi. On appelle ça. Parce qu'en fait si on construit en mur porteur, la maison elle est pas couverte pendant sa construction, donc ça pose un problème avec les bottes de paille qui doivent pas être mouillées, qui doivent rester sèches. Donc si on a une petite construction, c'est possible de le faire justement en mur porteur. On monte les murs comme des briques, enfin on monte les bottes de paille comme des briques, et après on met le toit dessus. Mais dans ce temps-là, il faut pas qu'il y ait une averse ni un orage pendant cette phase de construction. Donc ça pose un problème pour des grandes constructions. Par exemple, de plus de 70 mètres carrés, ça devient un problème parce que la maison reste longtemps à découvert, etc. Donc là, on ferait plutôt une ossature bois avec un toit et comme ça, on peut travailler au sec après.
Donc, j'ai commencé il y a 4 ans à peu près, au printemps. C'est une belle époque pour commencer une construction. Et donc la première étape de toute construction, c'est évidemment la confection idéologique de la maison d'après des plans. C'est le travail de l'architecte. Alors celui-là, je l'ai réalisé également, puisque en suivant les conseils de la construction en paille, il vaut mieux commencer petit, donc commencer abordable, disons, pour ne pas se perdre dans une multitude de détails et puis trop de surface à gérer. Voilà. Les plans ont été déposés à la mairie sous forme terminée, signée. Et puis ils ont été validés et à partir de là donc je suis parti sur une extension d'un habitat qui existait. Alors la première étape pratique, et ça fait du bien, ça nous met dans le bain tout de suite par rapport à la construction, c'est donc les fondations. Et les fondations, c'est de l'huile de coude, c'est des pierres, c'est la pelle et la pioche. Il faut se protéger des éboulements de terrain, pardon. Il faut commencer à tout de suite créer des drains pour anticiper un petit peu la construction dans l'ensemble par la suite, parce que c'est des détails sur lesquels on ne pourra pas revenir une fois que la maison est faite. Donc c'est un apprentissage en soi.
Donc une fois que les fondations ont été mises en place, il a fallu mettre la structure, donc la charpente en bois. C'est toi aussi qui a fait cette charpente ?
Voilà, alors dès qu'on rentre dans le domaine de la charpente, ça demande quelques connaissances évidemment. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai effectué un stage avec un charpentier pendant 3 semaines. Et puis là, on rentre tout de suite dans des détails où la paille va rentrer en compte. C'est-à-dire qu'on a quelques données par rapport aux dimensions des bottes qui vont dépendre de la paille avec laquelle on s'est fourni. Que dire de plus, la charpente, oui, la charpente c'est déjà des calculs de force, des calculs de résistance, des contreventements. Voilà. Alors en Alsace on est bien placé avec les colombages, il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent. Je dirais c'est la bonne région pour construire en poteau-poutre ou bien en ossature bois. Parce que ça fait ses preuves. Et il en va de même pour la terre. C'est quelque chose, on y reviendra aussi par la suite. C'est la terre en Alsace, elle a fait ses preuves, elle les fait encore. On voit encore des maisons donc, en torchis. Voilà, donc. Et puis, moi, je me suis aussi lancé comme défi de faire une toiture végétale. Donc, la toiture c'est la troisième étape, la quatrième étape. Par rapport à la maison en paille, puisque quand on choisit de faire une ossature bois, on a l'avantage de pouvoir couvrir la maison avant de poser les bottes de paille, donc de se protéger de la pluie et par la même occasion de pas prendre de risque, voilà, de devoir changer la paille, même si c'est pas un risque financier énorme, c'est juste de la main d'œuvre. Voilà.
Tu la connais la maison qui est dehors?
Oui.
Comment elle s'appelle la maison?
Une maisonnette.
C'est une maisonnette? Tu vas des fois dedans pour jouer?
Oui.
Elle est construite comment cette maison?
Avec tout plein de trucs autour. Il est construit bien, comme ça, grosse. Mais papa, il l'a construit avec de la peinture, de l'argile, tout.
Tu l'aimes bien, cette maison?
Oui, mais des fois, j'y vais pour jouer. Je ramène des jouets là-bas. Je sais pas quoi comme jouets, mais beaucoup de jouets.
Donc une fois que tu as ta structure de bois, tu vas chercher des bottes de paille et là tu commences à monter tes murs.
Voilà, j'ai été les chercher dans les champs avec le paysan. C'était un moment très très agréable parce que l'agriculteur était tout à fait surpris de confier ses bottes à un constructeur de maison. Et voilà, c'est une belle expérience. Alors les bottes ont été acheminées, donc elles sont dans un rayon de 20 km. J'ai essayé, tant qu'à faire, de les avoir en bio. Malgré tout, c'est quand même difficile. Disons, c'est ce genre de démarche qu'il faut prévoir. Il faut réserver ses bottes. Voilà, il faut créer un réseau. Il y a encore énormément de choses à créer ici, dans nos régions, où ces techniques ne sont encore pas totalement développées.
Il faut être combien pour bâtir une maison en paille? Est-ce qu'il faut beaucoup d'amis? Est-ce qu'il faut une bonne équipe de gens techniques?
Oui, il y a différentes manières de procéder. Il y a les chantiers participatifs, il y a tout simplement une entreprise peut se charger, c'est ce qu'on essaye de développer en ce moment, on peut se charger d'une construction de A à Z, c'est-à-dire se préparer avec le charpentier, même avec l'architecte à la base, et puis voir les détails avec le charpentier et toute l'équipe de la construction, et en passant par les maçons également. Ou alors on fait ça avec des amis et c'est un peu l'éthique de cette maison, c'est que voilà, je l'ai construite de manière totalement alternative pour baisser les coûts, pour prendre le moins de risques possible financièrement et quand même bénéficier de tous les avantages.
Donc voilà, financièrement t'en parles, on va y arriver. Combien coûte une maison en paille comme celle qu'on a là devant les yeux du micro?
Alors celle-ci a coûté en matériaux, sans le terrain. Elle a coûté 10 000 euros, donc on est aux alentours de 400 euros le mètre carré, clé en main, avec sol, mur, plafond, tout habitable, même le système, l'écoulement, l'arrivée d'eau. Très peu d'intervention professionnelle évidemment, mais beaucoup de main d'œuvre. Ce que je disais, voilà, c'est autour de 2 ans de travail, soirée et week-end on va dire.
Tu dis les différents matériaux, donc on va peut-être les lister, quels sont les matériaux qui composent ta maison?
Alors la pierre, le bois, la terre, la paille. Encore une fois le bois, encore une fois la terre, et après...
La terre, c'est une terre que tu as récupérée, toi, en creusant. Tu te parlais avant, Camille, il faut la récupérer dans la partie végétale du sol, minérale du sol.
Voilà.
Donc il suffit de chercher un endroit où tu as cette terre, tu creuses, tu viens avec ta brouette, et puis tu la récupères, tu la manies ici, tu la mélanges avec de l'argile, et après tu vas l'appliquer sur ton mur, c'est ça la démarche?
Oui, alors pour confectionner un bon enduit terre, donc faut, comme je disais avant, il faut déterminer déjà, il faut faire un test à l'éprouvette, hein. On teste la terre, on regarde combien il y a d'argile dans cette terre et combien il y a de sable. Et les granulométries du sable aussi, il faut aussi les apprécier un peu. Et en fonction de ça, on mettra plus ou moins de sable dans la terre qu'on trouve dans les fondations. Donc, et on optimise donc l'enduit pour pas qu'il fende et tout ça. Donc on met de la fibre aussi, en l'occurrence là Jean-Christophe a mis de la paille coupée. Donc en brin de 5 cm. Donc ce qui fait un enduit super résistant, donc autant à la pluie. On évite comme ça aussi toute l'érosion due aux gouttes d'eau et tout ça, à l'éclaboussement. Et donc après avec ça on a une bonne isolation parce qu'elle coupe du vent aussi, quoi.
Donc là, on a une façade avec un enduit à la chaux. C'est aussi... Alors ça, c'est pour des raisons, je dirais, pratiques par rapport à la loi de la proximité des terrains. Alors, on a le droit de construire en limite de terrain et pas de débord de toit ou bien 4 mètres du terrain. Et là, le terrain dont on a bénéficié pour ces constructions était assez limité point de vue place. Donc, on a choisi de construire en bordure. Du coup, il n'y a pas de débord de toit autorisé. Donc, un mur en terre aurait été très sollicité, voilà, ce serait ça le bon mot, par rapport à la pluie battante. Alors c'était l'idée de faire un bardage ou bien un enduit chaud. Un petit essai de comment on appelle ça, hein.
C'est vraiment expérimental en fait, on voit que t'as testé plein de choses.
Bois cordé, un petit essai de bois cordé ici.
Donc ça c'est quoi? C'est pour remplacer la paille en fait, t'as mis des bouts de bois que t'as coupé sur...
Un endroit, 20 cm de mur à réaliser pour attraper un bord de fenêtre par le dessous. Et effectivement c'était pas évident de rentrer une botte de paille là-dedans, alors il y a différentes techniques, hein. On peut tailler des bottes, on peut... Et puis là j'avais envie d'essayer donc cette technique d'empiler du bois... comme un tas de bois et de le maçonner, effectivement. C'est aussi une technique très peu coûteuse, mais qui a ses désavantages.
Alors là, on voit encore la paille apparente.
Voilà, exactement. Alors, c'est des petits endroits que j'ai décidé de laisser pour voir les différentes étapes, parce que cette maison, elle est avant tout expérimentale, et puis c'est un peu, elle fait office de maquette grandeur nature, un peu pour montrer, pour promouvoir cette technique qui est tout à fait révolutionnaire. Disons que quand on y a pris goût, on y reste accroché parce qu'on se rend compte que à tous les points de vue, ben ça c'est que des avantages. Donc voilà, pour effectivement donc montrer les différentes étapes de la construction. Je laisse des endroits pas tout à fait finis ou en cours d'être finis, puis petit à petit, voilà, comme ça je peux aussi réaliser un jour un stage et puis combler les derniers espaces.
T'as combien d'enduits là, en centimètres? Quelle est l'épaisseur?
Alors l'épaisseur, on dit que c'est de 3 à 5 cm pour avoir la caractéristique technique de la paille, des 12 heures de déphasage avec la transmission de la chaleur et du frais, le transport en fait des énergies.
Qui concerne l'empreinte carbone, c'est une empreinte positive, c'est-à-dire une maison en paille à ossature bois, elle stocke du carbone plus qu'est-ce qu'elle en produit. Donc c'est aussi quelque chose de très important, hein. Et en comptant le transport et tout, hein, tous les maillons de la chaîne inclus.
C'est-à-dire que tant que la paille elle est entière dans les murs des maisons, elle représente un stock de carbone latent, voilà,
qui n'est pas diffusé dans l'atmosphère.
Qui n'est pas diffusé. Alors il sera diffusé lorsque la maison sera en décomposition, mais celle-ci apparemment elle est partie pour durer. Donc on garde nos réserves de carbone pour nous.
Allez, on va faire un tour dans la maison.
Alors là, il y a la fraîcheur de la nuit qui est en train de se répandre aisément dans la maison et qui apporte cette petite touche un peu plus fraîche qu'à l'extérieur. Voilà, c'est quelques degrés. En fait, la courbe de température va être totalement anéantie par le déphasage. Elle va varier de 2 à 3 degrés alors que la température extérieure va chuter dans la nuit et augmenter en plein soleil la journée. Voilà, on bénéficie de la chaleur la nuit et du frais la journée. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça marche dans l'autre sens en hiver aussi. Quand on a un apport de chaleur à l'intérieur par un poêle par exemple, un poêle de masse ou un poêle à bois tout simplement, les murs en terre vont stocker la chaleur. Elle va petit à petit traverser, mais elle sera restituée à l'intérieur pendant toute la durée de la nuit. Et donc le matin, on aura quasiment la même température que la veille au soir. D'abord, ils absorbent la chaleur, ensuite ils la restituent quand on en a besoin. Ça fait partie de ces choses un peu magiques de la paille et qui nous permettent de sortir aussi des idées qu'on nous assène en ce moment, beaucoup par rapport à ça, les DTU, les valeurs, comment dire, les maisons pressurisées.
Ouais, VMC, double flux, etc. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de technologie dans ces maisons.
C'est une maison qui respire, c'est une maison qui est à l'échelle humaine. Voilà, c'est tout à fait adapté à l'environnement, à l'homme. Et puis, c'est un côté pratique aussi en mise en œuvre. Ah, j'ai laissé les stagiaires s'exprimer. C'est surtout les femmes qui adorent faire ça, des expressions libres sur la terre. C'est un modelage grandeur nature, donc c'est différentes choses avec de la peinture ou avec des enduits, ça permet de s'exprimer, disons. Alors il y a une couleur, c'est la terre naturelle telle qu'elle était, donc j'ai eu la chance d'avoir une terre assez riche en oxyde de fer, donc légèrement rouge. Et puis la couleur jaune qu'on voit ici sur le mur, c'est plutôt une peinture à l'argile, donc ça c'est une autre démarche avec de la caséine pour obtenir quelque chose, une peinture chaleureuse qui va pas poudrer par exemple et qui va permettre de combler les irrégularités du mur.
Alors le réseau électrique il est inclus dans l'enduit, dans la couche de 5 cm d'enduit. Donc avant d'enduire, il faut faire tout ce qui est réseau électrique. Les canalisations, vaut mieux les faire passer dans le sol, c'est plus prudent si jamais il y a un problème pour pas que ça mouille les bottes de paille. Mais tout ce qui est réseau électrique, on les met avant de poser l'enduit, donc sur les bottes de paille avec des broches. Et on la recouvre de terre, donc les gaines qui font à peu près 2 cm de diamètre sont recouvertes avec la terre. Et donc ça limite aussi la pollution électromagnétique, puisque la terre absorbe tous ces champs pratiquement totalement. Donc c'est aussi un avantage qu'on a avec la terre.
Par rapport aux idées sur le feu, la paille, une fois qu'elle est mise en œuvre dans une construction, qu'elle est enduite de terre des deux côtés, elle est beaucoup plus résistante que le béton, on va dire, au feu. Donc voilà, par rapport à fumer dans une maison en paille, on a fait l'expérience parce que souvent sur les chantiers, c'est des durs qui travaillent, donc les durs ils fument. Et donc voilà, et jamais l'odeur ne reste parce que comme les murs en terre respirent, ils absorbent les odeurs. Donc que ce soit des odeurs de cigarettes ou bien plutôt ce qui nous intéressera, c'est plutôt les odeurs de cuisine, d'huile brûlée ou de poisson. Et ça, il en va de même, elles sont absorbées et la maison a toujours cette odeur qu'on sent là en ce moment, une odeur un peu de sous-bois ou bien plutôt une odeur fraîche. Et toutes les maisons en paille ont cette odeur en fait. Ça vient sans doute de la terre. Le plafond, il est encore pas tout à fait terminé à ce stade. Il y a un pare-vapeur, puisque là évidemment on rentre dans des matériaux. Usiner des matériaux comme la laine de bois ou bien la laine de chanvre, et donc c'est des matériaux qui doivent être protégés de l'humidité. Et bon, alors on peut faire des toits, des plafonds, je voulais dire, en argile qui du coup gérerait l'hygrométrie du toit et puis le transfert des vapeurs qui cause des dégâts effectivement. Et donc là j'ai installé un pare-vapeur, donc c'est tout à fait sommaire comme installation. Il viendra par-dessus du fermacell ou bien un lambris. On s'ennuie pas visuellement et psychologiquement dans une
maison de paille.
Voilà la mezzanine qui donne donc voilà, on est nouveau au niveau du sol à la mezzanine puisqu'on a accès directement à la toiture végétale qui nous rafraîchit, qui protège la charpente des variations de température puisque le bois subit des dégradations suite à des hautes températures sous les tuiles par exemple. Voilà. Donc on dit que ça protège, ça amortit également le froid en hiver. Voilà, donc c'est toute une mise en œuvre effectivement. Les toitures végétales, c'est vraiment pas évident à gérer. C'est plutôt un surcoût par rapport aux tuiles, mais les avantages sont sur la durée, donc pourquoi pas. Et puis esthétiquement et philosophiquement aussi, on aime bien dire qu'on restitue sur le toit l'espace de verdure qu'on a pris au sol. Il y a différentes techniques. Alors il y a la technique de la toiture végétale intensive, il y a la toiture végétale extensive. Il y a le modèle Tundra, enfin voilà, c'est des choses très commerciales, mais moi j'ai utilisé le modèle le plus simple, c'est-à-dire qu'on prend des rouleaux d'herbe, on déroule l'herbe des champs à côté, à l'aide d'outils tout à fait basiques, et puis on les emmène avec des seaux sur le toit, on met une couche à l'envers, une couche à l'endroit, la couche à l'envers va nourrir en humus la couche du dessus qui va, c'est magnifique, on la déroule comme du gazon, comme de la moquette plutôt.
Donc on aura les mêmes espèces végétales qui vont pousser sur le toit que celles qui pousseront à côté de la maison.
Voilà, tout à fait. Après ce qui est fascinant, c'est d'observer comment la nature s'adapte instantanément, disons en une saison il y a directement des plantes spécifiques qui viennent se greffer, qui prennent le dessus. Ce sont des plantes qui résistent à la sécheresse et aux grandes humidités. Quand j'ai planté les premières mottes, il y avait beaucoup de menthe, et puis celles-ci ont disparu instantanément les premiers mois. Elle a desséché aux premières sécheresses, puisque j'ai pris la décision de ne pas arroser, de laisser le biotope s'adapter.
La maison en paille. Alors, pour moi, il n'y a que des aspects positifs. À part le seul point négatif, peut-être, c'est la mise en œuvre, parce que justement c'est un matériau qui est putrescible, donc avec l'eau il se dégrade, mais tant qu'il reste sec, il n'y a pas de problème. Donc c'est juste à ça qu'il faut faire attention. C'est à peu près le seul défaut qu'on peut reprocher à ce mode de construction. Une fois que les bottes de paille sont bien mises en œuvre, bien tassées, etc., et enduites des deux côtés, il n'y a aucun problème. Il y a des maisons qui ont plus de 120 ans qui ont ce système. On n'a encore trouvé aucune dégradation. De même, on a trouvé des brins de paille qui ont plus de 2500 ans dans les pyramides d'Égypte. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune dégradation parce qu'elles étaient restées au sec.
Aussi souvent, la question qui revient par rapport aux insectes, aux rongeurs, et puis... l'idée c'est de dire aussi que quand la paille est compressée, justement, toujours pour ces mêmes raisons, quand la paille est compressée, elle atteint un niveau de densité qui n'intéresse plus les animaux pour y creuser des galeries. Ils peuvent éventuellement se frayer des chemins entre les bottes quand elles sont stockées dans des hangars sans pressurisation particulière. Et là, c'est fréquent, mais par contre, une fois qu'elles sont enduites, il n'y a plus d'espace pour les animaux. Alors, on peut toujours mettre des grillages, etc., mais ça paraît futile.
Et ça, pour effectivement compresser la paille, il y a une technique. Tu prends les bottes telles qu'on les trouve dans les champs, ou il faut les recompresser derrière pour avoir pour optimiser la compression.
En fait, on prend les bottes telles quelles dans les champs, donc comprimées par une botteleuse. La botteleuse, on peut la régler aussi en conséquence. Si on veut plus de compression, ça dépend de la qualité de la paille aussi sur pied. Et après, de toute façon, dans une ossature bois, on les recompresse. Donc on prévoit 10% de compression par botte de paille dans l'ossature. Donc elles sont beaucoup plus comprimées que des bottes de paille stockées dans un hangar, de ce fait.
Ok, l'apologie, t'as dit donc le point négatif, hein, c'était l'hygrométrie, l'humidité, mais bon, ça c'est ouais. Juste au moment de la construction, on ne veut pas que le matériau soit mouillé voilà. Avant de poser les...
Et après aussi, peu importe les soucis qu'on peut rencontrer, ça peut être les mêmes en général dans une maison traditionnelle, dans une maison conventionnelles.
Ouais, les problèmes sont les mêmes.
Voilà, sauf que les solutions sont beaucoup plus abordables avec la paille. C'est très facile de démonter une botte de paille, même si elle est en plein milieu du mur, tout simplement parce qu'on détecte qu'il y a une prise d'humidité quelque part ou qu'il y a une fuite de canalisation. On découpe l'endroit de la botte, c'est mesurable. On sort la botte, on change la botte, on rabote la botte et on raboute la botte. On remet un enduit terre par-dessus, on remet une couche de peinture, ça coûte rien, c'est un petit peu de temps. Et voilà, donc les avantages, c'est que les désavantages ne sont pas dramatiques.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent par nous. We'll be right back.